est blanche.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je prends un pari, au moins une personne sur trois d'entre vous, si vous êtes entrepreneur et concerné par les menaces cyber. On va découvrir une entreprise leader du secteur avec l'un de ses dirigeants, Georges Lotigier. Bonjour Georges.
Bonjour Thomas.
Et on aura le plaisir d'avoir presque comme co-host l'un de tes associés, Adrien Gendre. Bonjour.
Bonjour.
On ne portera pas cet épisode sans mon fidèle compère Olivier Mathiot.
Salut Thomas, salut Georges, salut Adrien.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Eh bien, je vous propose d'y aller.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathiot et Thomas Benzazan.
Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathiot, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflys OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Vaste programme, Olivier.
Vaste programme. Donc, on est ravis de recevoir Georges et Adrien. Donc, on va parler avec Veid du secteur de la cybersécurité. Entre nous, normalement, dans le jargon de la tech, on dit la cyber. On parle de cybersécurité ou peut-être aussi de cyberdéfense. Donc, il s'agit après de technologies, notamment, qui nous protègent des agressions extérieures, notamment, qui peuvent arriver très souvent à travers le canal email. Donc, tu nous parleras de ça, Georges.
Oui.
Ça sera intéressant d'ailleurs de voir ce qui s'est passé, notamment avec le Covid et puis maintenant la crise Ukraine. À chaque fois, il y a des raisons de penser qu'effectivement, les failles de sécurité s'agrandissent et donc on a de plus en plus besoin de se protéger contre ces agressions. Donc, je crois que c'est des technologies qui parlent de prédiction, d'intelligence artificielle, de machine learning, comment est-ce qu'on peut prévoir et comment est-ce qu'on peut anticiper et orchestrer et identifier aussi si c'est une menace ou pas une menace. Donc il y a beaucoup de technologies là-dedans.
Oui.
Vous analysez des milliards d'événements, je crois, par jour. On reverra les chiffres, qu'ils évoluent en permanence et je pense que dans un contexte comme celui de la guerre, c'est encore évidemment plus critique. Donc vous êtes parmi les leaders dans le monde. Alors vous pourrez nous dire un petit peu quel est aujourd'hui le paysage concurrentiel hein, de toutes ces cyberattaques et de la lutte contre ces cyberattaques. Alors on parle de phishing, on parle de malware, on parle de ransomware. Alors c'est tout le vocabulaire et le jargon derrière ces enjeux de cybersécurité. Je crois que vous avez été créé en 2013 hein, à travers une spin-off, donc nous racontera ça, qui était dans le groupe GoTo Software. Donc il y a toute une histoire aussi autour d'un de tes associés qui hélas n'est plus là, mais à travers lequel tu as pu initier ce dossier. Et ça sera intéressant de revenir là-dessus. Une levée de fonds ensuite de 10 millions d'euros en 2017. Des signatures de gros contrats, on pourra en reparler, mais c'est aussi ça qui a fait le succès, d'aller gagner des gros contrats, notamment aux États-Unis, mais aussi au Japon et dans différents pays, Microsoft, Cisco, Orange, Vodafone, enfin, je pourrais nous en citer, mais en tout cas, il y avait des objectifs de beaucoup de chiffre d'affaires. Et puis en 2019, j'ai vu que vous étiez déjà en train de sécuriser 600 millions de boîtes email aujourd'hui. Je crois que vous avez dépassé le milliard avec le Covid. Alors, on verra où vous en êtes maintenant. À l'époque, vous aviez 120 salariés. Et donc tous vos algorithmes qui tournaient à fond. Le marché français représentait, je crois, à peu près la moitié de votre activité à ce moment-là. Et il y a eu la signature d'un investissement de 70 millions d'euros avec un fonds qui est General Catalyst, un fonds tech, je crois, basé à Boston, avec un objectif de conquérir les États-Unis, un objectif aussi assez agressif en termes de recrutement, en termes de RH, hein, objectif de recruter 400 personnes, et voir peut-être de cibler aussi une IPO avec le Nasdaq. Et là, boum, catastrophe, ce qui arrive parfois dans la vie des entreprises, mais là, c'était quand même particulièrement violent. On apprend en 2020 que finalement la levée de fonds est annulée. Alors, est-ce que c'était l'effet Covid ? Est-ce que c'était l'effet aussi d'une attaque juridique que vous aviez subie de la part d'un de vos concurrents américains qui est Proofpoint ? Donc, il faudra revenir là-dessus parce que finalement, entre le storytelling et la difficulté que vous avez traversée avec une forte résilience et qui d'ailleurs vous assure notre respect, je sais que ça a coûté très très cher, jusqu'à 500 000 euros par mois, d'après ce que j'ai compris, en frais d'avocat, alors peut-être même plus.
Il dit plus, ouais.
Bon, peut-être plus. Hein, donc, bon, voilà, quand on est une entreprise française face à des gens qui sont rompus à l'exercice de la justice aux États-Unis, ça ne doit pas être facile. Bon, et puis finalement, vous avez rebondi, vous avez sécurisé un financement aussi à travers la BPI, je crois aussi des aventes d'un certain nombre de clients, dont des clients japonais. Donc ça serait intéressant de revoir où est-ce que vous en êtes maintenant aujourd'hui, après avoir traversé cette crise avec résilience. Quels sont vos objectifs ? Peut-être une levée de fonds plutôt au niveau européen qu'américain, et où est-ce qu'on en est aussi par rapport au marché américain ? En tout cas, bravo d'être encore ici malgré toutes ces agressions, et qui ne sont pas toujours des agressions de cyberattaque, mais qui sont là des agressions juridiques et technologiques.
Vaste sujet donc à aborder. Oui. Tu nous as promis un entretien avec Adrien Zéro Bullshit. Donc, on a hâte d'entendre votre regard à la fois sur votre secteur et puis sur toutes ces aventures traversées. Je propose de commencer par le commencement. Pitch or mon pitch. Pitch or mon pitch. Alors, on a eu une très belle présentation d'Olivier. Néanmoins, aujourd'hui, si tu dois pitcher même un gamin de 5 ans, ce qu'est Veid, tu racontes ça comment ?
Bah, effectivement, je pense que la cybersécurité concerne tout le monde, et même un enfant de 5 ans. D'ailleurs, chez Veid, on considère qu'il faudrait évangéliser la cybersécu même au collège. Pour que cette culture et cette culture de la cybersécurité et des risques que l'on prend à tout âge, dès lors qu'on va sur Internet, existe et beaucoup plus importante que ce que la plupart des gens imaginent en France. En France, on est très naïf sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, nous, notre métier, c'est de détecter des tentatives d'attaque à travers des communications entre humains, en particulier l'email. Et aujourd'hui, 92% des cyberattaques démarrent par un email. Pourquoi ? Parce que l'humain est toujours le maillon faible. Les cyberattaquants...
Et on peut mettre tous les outils qu'on veut, la faille, elle est humaine.
Non, mais ouais, ça, il y a un peu de ça. L'erreur est humaine, ouais. Et ça le restera toujours. Donc, c'est normal. Et après tout, l'IT, l'informatique est faite pour aider les humains. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des humains. Et c'est le maillon faible. C'est toujours l'humain qui va commettre une erreur, transmettre une information qu'il ne fallait pas à une personne qui croyait être quelqu'un, mais qui n'est pas celui qu'il prétend être.
C'est-à-dire qu'en général, l'attaque, elle arrive d'un email qui n'est pas envoyé par un humain ?
Ça dépend. Ça peut venir effectivement de botnet. Donc là, c'est en général plutôt des attaques massives. Et ça peut être envoyé par un humain qui va usurper l'adresse de quelqu'un d'autre s'il y a compromission. Enfin, en tout cas, il y a des tas de moyens très simples ou très sophistiqués pour leurrer en fait le destinataire d'un email.
Quand on dit plus d'un tiers d'ailleurs des boîtes sont concernées par des attaques, c'est-à-dire que c'est pas que pour les grands groupes avec de gros enjeux strat, même la start-up qui se lance, la PME de 20, 30, 50 personnes est concernée aujourd'hui.
Oui, pour plusieurs raisons. Bon, il y a les attaques de type ransomware qui sont très fréquentes en fait finalement.
C'est-à-dire je bloque les accès, il faut payer pour retrouver tes données. Quoi.
On plante tout le système informatique, il faut payer. Il y en a qui payent. On conseille de ne pas payer puisque ça entretient le sujet, mais cyberattaquants...
Et quand on paye, on récupère à tous les coups ou ça arrive que non, c'est pas garanti non plus quoi.
Non, mais ça arrive quand même de temps en temps, mais il faut qu'ils le fassent parce que sinon, ils ne récupéreraient jamais d'argent. Donc, évidemment, il faut que ça se sache qu'en payant, on récupère quand même, dans certains cas, les données.
C'est quoi les montants ? Ça dépend de la taille de la boîte ?
Ça dépend de la taille de la boîte, ça dépend ce qui est... Ça va de l'ordre de 500 euros pour un PC... Enfin, il y a quelques temps, c'était 500 euros pour un PC, 5000 euros pour un serveur dans une petite boîte. Mais ça peut être des montants bien, bien, bien plus importants.
Et des fois, en parlant...
Et en fait, plus c'est bas,
est-ce qu'il y a
de chances de récupérer de l'argent. Et voilà.
Alors, du coup, excuse-moi, je t'interromps, mais est-ce qu'il y a un record qui est connu dans le monde du maximum de la rançon qui a effectivement été payé ?
En tant que rançon, j'ai pas le montant, mais en tout cas, c'est assez élevé. Tu l'as, toi, Adrien, peut-être?
Ou des ordres de grandeur, c'est juste que je me...
Bah, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, bah, quand toute une société est plantée, je sais qu'il y a des rançons qui ont été demandées à plusieurs millions d'euros. Je me souviens plus auprès de quelle boîte.
D'accord.
Il y en a eu pas mal dans des cliniques et hôpitaux, par exemple.
Adrien.
Et en effet, c'est tout l'enjeu quand on disait... culturellement, on a un petit peu tendance à croire que c'est uniquement la grosse entreprise qui va intéresser les pirates, parce que historiquement, on a un peu cette manière de penser qui est le piratage, c'est uniquement pour prendre de l'information confidentielle. Mais aujourd'hui, en fait, le piratage, c'est devenu un business model pour un certain nombre d'acteurs. Et donc, le principe, c'est juste de récolter de l'argent. Et donc, quand il y a un business model, il y a la notion de coût. Combien coûte une attaque? Et c'est là où l'email est du pain béni, un petit peu, entre guillemets, pour ces attaquants, puisque envoyer des emails, ça coûte vraiment... C'est pas cher, c'est très très peu. Par contre, le gain, les montants qu'évoquait Georges, peut être substantiel. Et donc, l'objectif des pirates aujourd'hui, c'est vraiment d'arroser le plus de cibles possible, économiquement.
C'est qui ces pirates? On parle de grosses mafias organisées. C'est des fois un gamin de 15 ans dans sa chambre qui a priori, sur des outils simples, peut arriver au même résultat.
Alors, on trouve de tout.
Voilà. En effet, il y a les deux. Et on voit, pour la petite anecdote, donc en effet, il y a beaucoup d'indépendants, entre guillemets, et il y a énormément d'entités structurées. Les segments de mafia se sont mis au piratage puisque c'est extrêmement rentable et il y a des risques moindres par rapport à d'autres
business
que vous avez auparavant, oui. Mais ce que l'on observe, c'est qu'il y a une économie qui se construit à l'intérieur du côté de l'attaquant. C'est-à-dire qu'on observe en fait des entités qui sont là pour fournir la plateforme et un certain nombre d'outils, et elles vendent ça, elles licencent ça comme nous on licence un logiciel.
Et les chercheurs d'or et les vendeurs
acteurs,
de pelles, eux c'est les vendeurs de pelles. Voilà.
Qui eux vont utiliser les outils et localiser les attaques.
Mais alors du coup, Adrien, on parle beaucoup de la partie ransomware, et je sais pas si dans l'imaginaire public, c'est ça le principal risque établi. On a d'abord l'impression que ça peut être aussi l'accès aux données privées, ça peut être le vol d'informations, etc. Et en plus, on y pense encore davantage dans un contexte de guerre ou de crise, où il peut y avoir des gouvernements qui attaquent, enfin des gouvernements ou des services de renseignement, ou des pirates aussi qui attaquent, et pas forcément pour avoir une rançon, mais pour atteindre les données.
Ça, c'est une grande tendance aussi de la cybersécurité, enfin ou des cyberattaques, c'est qu'il y a des attaques gouvernementales.
On en va attaquer des infrastructures.
Voilà, qui viennent de pays de l'Est, en tous les cas, assez souvent. On en a subi, nous, et qui sont de plus en plus souvent des attaques qu'on appelle supply chain. C'est-à-dire qu'on attaque un maillon plus faible, qui est fournisseur de quelqu'un peut-être un peu mieux sécurisé, qui lui-même est fournisseur d'une boîte plus sécurisée, qui lui-même est fournisseur du gouvernement. Ça a été le cas de Veid. Hein. On a subi en 2019 une attaque
importante
qui visait Scalaire, société du groupe, qui héberge pour Veid. Veid a détecté l'attaque, mais on s'est rendu compte que ce qui était ciblé, c'était le système de mise à jour d'une société qui elle-même fournit du chiffrement au gouvernement français. Donc, la cible, finalement, c'était le gouvernement français.
Et tout a commencé par des emails, là aussi?
Là, il y a eu plusieurs types d'attaques. Comme ils ne réussissaient pas à obtenir des informations de chez nous parce qu'on était bien protégés, on a eu une visite physique. Mais en règle générale, ça commence effectivement par un email.
C'est quoi, on a un VRP qui débarque dans la boîte avec une clé USB? C'est quoi une...
Bah, là, c'est quelqu'un qui était informé de l'intérieur, vraisemblablement, par un stagiaire, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, on a embauché des stagiaires qui étaient d'origine de ces pays-là, et qui sont passés par là, qui ont visiblement donné des informations très précises sur l'endroit où il fallait aller chercher une information, des adresses IP, des choses comme ça, un dossier papier. Voilà.
Donc je vois ce que tu veux dire quand on dit qu'on peut être naïf en France, et que la réalité, c'est qu'effectivement, ça peut arriver de partout. Donc, il y a un état d'esprit vraiment à enclencher pour pouvoir...
Là, on parle de sociétés qui sont dans l'IT. C'est vrai, ils sont entrés chez Scalaire, qui est fournisseur d'infrastructures, pour Veid, qui est fournisseur de sécurité, qui a dans ses clients d'autres éditeurs de sécurité qui travaillent pour le gouvernement. Veid travaille assez peu pour le gouvernement. Mais ça peut être de n'importe où. En réalité, dès lors que quelqu'un est fournisseur d'une société, je veux dire n'importe quoi, une société qui fabrique du pain, enfin, un boulanger qui est fournisseur de Airbus Défense, par exemple, et qui envoie des emails.
Oui, ça peut être une entrée.
Simplement, voilà, oui, on se fait passer pour ce boulanger qui vient livrer du pain tous les matins. Je dis n'importe quoi, hein, c'est juste un exemple. Et donc, ou une pièce attachée dans une facture qui vient prendre possession du serveur, d'un PC à la compta, et donc permet l'accès depuis l'intérieur au réseau, etc. Donc ça, c'est très fréquent maintenant, les attaques par supply chain. Et donc, n'importe quelle entreprise qui a des clients et qui communique avec ses clients peut être prise pour cible pour entrer chez ces clients-là, qui eux-mêmes, peut-être, ne sont pas directement des sociétés sensibles.
Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui n'ont évidemment pas envie de voir leurs données soit volées, soit bloquées, quid de, en fait, du coût de la sécurité pour une boîte? Est-ce qu'on trouve de tout? Est-ce que ça dépend de la taille de la boîte? Est-ce qu'il faut trouver un équilibre entre aujourd'hui le chiffre d'affaires, le résultat que je fais chaque année, et est-ce que ça va me coûter de me protéger ou de potentiellement subir une attaque? Et sans prêcher pour votre paroisse,
forcément. Mais les analystes considèrent qu'aujourd'hui, le marché de la cybersécurité, c'est 4-5% du marché de l'IT, enfin de l'informatique en général, mais ça devrait être plutôt aux alentours de 7% selon les analystes. Ça, c'est un chiffre qui date déjà d'il y a quelques années. J'ai pas les dernières préconisations des analystes, mais en gros, on peut pas avoir un système d'information numérique sans avoir un niveau de sécurité en face qui soit suffisant. Et quel qu'il soit, encore une fois, un site web avec des mots de passe, même pour vendre des bricoles, la plupart des gens utilisent malheureusement toujours le même mot de passe pour le boulot. Et donc voilà, piller les mots de passe d'un petit site marchand qui fait trois fois rien comme chiffre d'affaires, ça donne déjà plein d'informations et ça permet éventuellement...
Ouais, parce que les pirates peuvent ensuite réutiliser et tester ces mots de passe sur d'autres accès, y compris bancaires, etc.
Tout à fait. Et la plupart du temps, ça marche.
Quand on voit que même des gouvernements ou des grands groupes peuvent être attaqués, est-ce que finalement, c'est un peu le risque zéro, c'est pas possible?
Ah non, 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 mais il faut bien
limiter,
voir.
On peut limiter, on peut prévoir.
Utiliser Internet, c'est comme aller sur Internet, c'est comme aller dans la rue. On peut pas dire qu'il y a jamais de risque dans la rue, mais on fait attention à qui on parle. On met pas ses affaires directement accessibles par un pickpocket. Voilà, c'est pareil, hein, c'est tout à fait comparable.
Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais entre... Alors après, je pense qu'il faut qu'on avance aussi un peu dans ce podcast. Moi, je me demandais entre le facteur humain et ce que permet la technologie, et ce que vous permet votre technologie avec... Donc, qui dépasse la capacité humaine avec du machine learning et de l'analyse de données en milliards, disons, d'occurrences quotidiennes, etc. Quel est le plus important finalement? Est-ce que quand vous évangélisez le marché, est-ce que c'est plus des règles humaines de base qui vont permettre de maximiser déjà une grande partie de la défense, c'est-à-dire juste ne pas ouvrir un email quand on ne sait pas de qui ça vient, vérifier le nom de domaine, jamais ouvrir la pièce jointe s'il y a un doute, etc. Enfin, un certain nombre de règles de base comme ça. Est-ce que ça, c'est 90% du problème? Et ensuite, vous allez résoudre les 10% restants, ou est-ce que
c'est un tout, finalement. C'est autant la sensibilisation que les outils de détection, de sécurité et de remédiation. Nous, on parle, le cycle global, c'est prevent, detect, remediate. Donc, prévenir, détecter, remédier. Parce que, pourquoi remédier? Parce qu'il y a toujours des choses qui passent, dans tous les cas. Et pourquoi prévenir? Parce que, il faut prévenir, former, prévenir,
oui,
c'est aussi
mieux prévenir
au sens,
que guérir. Hein,
technique.
Ouais,
ouais. Mais c'est à tout niveau qu'il faut intervenir. Et de façon égalitaire, on ne peut pas dire il suffit de former, et c'est ça le plus important. Je pense que c'est à peu près un tiers.
D'accord.
Enfin, moi, je dirais ça.
Okay.
En tout cas, c'est notre point de vue et on est, de notre côté, très orienté sur les attaques qui utilisent l'humain. Donc,
ouais.
Prévenir, former, informer, détecter et remédier ensuite en fournissant des informations.
En fait, je me rends compte que le podcast sur Veid est compliqué parce qu'on est passionné, parce qu'on se sent concerné par les problèmes de cybersécurité en tant qu'individu, en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Il y a l'aventure entrepreneuriale plus votre aventure humaine. Donc en fait, il faut.
Et on est passionné.
3 ou 4 podcasts là. Oui, vous aussi vous êtes passionné, mais là on est sur un sujet où on touche plein de corps sensibles à la fois. Donc il va falloir qu'on se discipline.
Mais si on parle de Veid, ça n'a pas toujours été Veid, la marque qui a connu. Pas mal de moments dans son histoire et pour aborder
et dans son nom
du coup carrément pour parler de l'aventure Veid et de l'aventure de la marque, vous avez choisi une musique pour nous parler de tout ça. On l'écoute. Ça a été compliqué d'ailleurs de se mettre d'accord sur le
Le thème, c'était quand même plutôt festif.
Oui.
Ça, c'est ce qu'on a envie de chanter, ce qu'on a envie de danser après toutes les aventures d'ailleurs qu'a évoqué tout à l'heure Olivier, sur lesquelles on va revenir, mais un mot quand même sur la marque, ce changement de nom, Vade Retro, devenu Vade Secure, devenu Veid.
Peut-être une chose par rapport à la musique qu'on vient d'entendre, c'est vrai que chez Veid on aime bien faire la fête, on est une cybersécurité centrée sur l'humain et on dit parfois que on travaille pour un monde digital meilleur. On travaille pour un monde meilleur, donc voilà. Et faire la fête, ça en fait partie.
Très pitch de boîte US, ça.
Ouais, c'est vrai, mais finalement, c'est ce qu'on pense et c'est comme ça qu'on voit aussi notre métier.
J'interromps parce que c'est d'autant plus intéressant que là, on a un peu d'image et de vidéo, mais c'est vrai que Georges, depuis le départ à la pêche, il sourit. On a Adrien en ligne et c'est vrai. Alors qu'on pourrait considérer que le sujet lui-même est pas drôle, enfin le sujet de la défense, des rançons, etc. On est déjà sur un sous-jacent qui pourrait démoraliser. Et puis en plus, vous avez connu des difficultés entrepreneuriales que vous surmontez au fur et à mesure aussi avec la pêche. Donc c'est d'autant plus intéressant qu'il y a ce double effet où la fête vient compenser.
Mais du coup, est-ce que vous avez toujours été enthousiaste ou vous l'êtes d'autant plus après tout ce que vous avez ce à quoi vous avez survécu?
On a toujours été enthousiaste. Déjà, c'est une question de personnalité aussi et de philosophie. Philosophie perso, mais philosophie d'entreprise. Voilà. Et donc, chez nous, on a toujours considéré qu'on était plus créatif, plus efficace. Je pense que ce sont une généralité. Quand on a plaisir, quand on prend plaisir dans son travail. Donc ça, c'est quelque chose, la notion de plaisir au travail est très importante. Et encore une fois, notre mission, c'est de faire en sorte que le monde digital soit plus agréable et plus sécurisé. Donc on pourrait prendre le côté négatif et sombre de la force. On a préféré l'autre côté. Et vous avez remarqué qu'on a changé de nom et de logo.
Ouais, alors justement,
avant, on était dans le rouge, le noir, la crainte,
la défense.
Ouais. Etc.
Est-ce qu'on change de nom comme on change de modèle ou est-ce qu'on change de nom comme on change de vision ou de mission?
Les deux. Vade Retro, c'était très franco-français finalement parce que Vade Retro Satanas, c'était par rapport au spam. Enfin, il y avait un petit jeu de mots entre Satanas et le spam. Voilà, donc. C'était, on s'est rendu compte que même les Italiens ne savaient pas ce que ça voulait dire, Vade Retro, pourtant un pays latin.
C'est du latin en fait.
Voilà, c'est du latin. On s'est dit que, enfin, on a réorienté la société très rapidement vers la sécurité beaucoup plus forte. Le spam était plutôt une commodité, donc la vraie menace, c'est, enfin, la cybersécu. Donc on s'est dit que Vade Secure, c'était plus secure, et Vade Retro, c'était peut-être rétro.
Bien vu.
Voilà. c'est lacanien, c'est la psychologie.
Et ensuite, on a prononcé Veid parce que les Américains, enfin, il fallait se mettre d'accord entre la façon de prononcer et la façon de l'écrire aussi pour les Japonais qui écrivent phonétiquement.
Vous avez un gros business et aux États-Unis et en Asie, ouais.
Et puis on a eu l'opportunité de supprimer le secure parce que un mot de 4 lettres qui a du sens, go, enfin, vade en latin, ça veut dire va. Ça veut dire aller de l'avant. Voilà, donc on le prononce Vade, mais ça fait aussi écho à invade ou evade, enfin s'évader. Ou, voilà, on cherche à aller de l'avant. Et
pas mal, moi, c'est assez convaincant quand changement de nom. C'est
mais le .com est toujours Vade Secure.
Oui, le .com, pour l'instant, est Vade Secure.
En discussion.
Voilà, simplement parce que pour l'instant, le racheter est encore un peu cher. Mais on a changé également les couleurs. Les couleurs sont très orientées communication. C'est des couleurs de l'humain.
Du bleu, du violet, du rose. Du rose. C'est très 40 nuances de Next comme couleur.
C'est bien,
ouais, un peu, oui.
Ouais. Juste par curiosité, tu dis que ça coûte un peu cher de racheter un nom de domaine. Alors peut-être que ça dépend aussi de la taille de la boîte qu'on a. Et puis en face, on a des vendeurs qui sont peut-être plus gourmands.
Oui, ça dépend du vendeur en face. Hein.
Ouais, ça représente quoi? C'est 50, 100?
Non. Je sais plus combien c'est. C'est quelques... Oui, c'est peut-être 50 000 euros. Mais je ne sais plus, très honnêtement.
Mais d'ailleurs,
c'est pas très cher, mais... On s'est dit, il n'y a pas d'urgence, finalement. Dès lors qu'on tape Vade, on nous trouve. Voilà, ça n'a pas d'importance.
On parlait de rançon, mais c'est pas le sujet principal du podcast. Mais ça arrive aussi qu'il y ait du cyber-squatting. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui rachètent les noms de domaine approchant avec des fautes d'orthographe, etc. Et qui ensuite vous proposent de les revendre, quoi.
Bah oui.
Donc c'est une autre forme. C'est pas la vraie cyber-défense, mais bon, c'est quand même pénible.
Tout à fait.
Du coup, on revient sur le début de la boîte. Que vous avez repris avec Adrien, un de tes anciens associés sur une boîte précédente que vous aviez revendue. L'histoire est pas joyeuse, même si la suite est forcément happy, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais
c'est la vie, quoi. Voilà. Et la mort en fait partie.
Oui, parce que pour mettre un peu de contexte, donc un de tes anciens associés monte la boîte et apprend qu'il a un cancer, qu'il a peu de temps à vivre. Et là, il va falloir trouver quelle suite à donner, parce qu'on n'a pas envie de laisser la boîte derrière soi non plus sombrer.
Voilà. Donc, moi, j'étais en train de sortir et j'ai vendu Netask, qui est devenu Stormshield maintenant, donc dans la sécurité des réseaux. Donc ça, c'était en 2012. Et un peu avant ça, enfin pendant cette période-là, Thierry Tarnus, fondateur de GoTo, il a créé Nordnet, Sarbacane, Vade Retro, donc qui est devenu Vade Secure, puis Vade tout court, m'avait donc demandé de packager Vade Retro, qui était dans un groupe, pour le séparer en termes d'équipe, etc., et en vue de vendre, parce qu'il approchait l'âge de la retraite. C'était mon associé, donc, dans Netask, donc des boîtes très très proches, culturellement. J'ai travaillé donc à packager cette boîte, j'avais recruté Adrien Gendre au poste de product manager, responsable du support technique, enfin voilà, des postes qui manquaient dans la société, pour qu'elle soit bien séparée et autonome dans sa vision produit, etc. Puis Thierry Tarnus s'est rendu compte qu'il avait un cancer et qu'il avait plus que 6 mois à vivre. Et donc, comme je venais de vendre mes actions de Netask, il m'a dit, écoute, Georges, j'aurais pas le temps de vendre à quelqu'un d'autre qu'à toi. Et il m'a tout packagé. Il est allé discuter avec les banques, etc. J'avais plus qu'à signer en bas. L'investissement financier était très faible, finalement, par rapport à la qualité de la société. Très belle boîte, petite à l'époque. Mais très belle technologie, très belle équipe, très beau potentiel, un très bon véhicule finalement pour créer quelque chose de sympa dessus. Je voulais pas le faire seul, donc j'ai appelé Adrien Gendre et le directeur commercial Grégoire Lepoutre, et avec qui je m'entendais bien, et je me disais si on fait quelque chose, autant le faire en équipe. Être seul, c'est moins drôle. Je leur ai demandé, est-ce que vous êtes prêts à mettre un peu d'argent dedans? Et en un quart d'heure de temps, la décision était prise. Voilà.
Donc, c'est ce qu'on appelle une spin-off. Hein. Donc, vous avez détaché l'entreprise, vous l'avez rachetée.
Oui.
Et du coup, à ce moment-là, vous n'avez pas fait de levée de fonds, quoi que ce soit. C'était juste votre argent. Vous avez lancé le truc.
C'était du LBO. Donc,
d'accord.
On a fait un...
Il y a un peu de dette, alors, c'est ça aussi?
De la dette, voilà.
D'accord.
Et c'est ce qu'avait préparé Thierry Tarnus,
d'accord,
avec sa banque.
OK.
Voilà. Donc, on n'avait plus qu'à apporter un peu d'argent, mais c'était une somme modeste et tout à fait réalisable, compte tenu du fait que je venais de vendre une société.
Parfait.
Également.
C'est Enfin, moi, ça m'interroge beaucoup sur comment on accompagne la suite de la boîte avec un fondateur qui va partir et qui décède vis-à-vis des collaborateurs, dans la relation perso aussi qu'on a avec lui, parce que tu...
Alors, sur le sujet, Thierry Tarnus ne voulait surtout pas dramatiser, personne ne voulait dramatiser, et encore une fois, ça fait partie de la vie, donc on accepte les choses comme elles sont. Moi, j'étais content... pour Thierry, fier d'assurer la continuité, et je le garde toujours en mémoire. Pour moi, l'histoire, enfin tout ce qu'on fait, ça a été initié par lui, et voilà. Quand on a une belle réussite, je pense toujours à ça. Je me dis, on a été dans la continuité, et c'est ça qui est sympa.
Un mot, parce qu'on l'a rapidement évoqué, sur votre présence à l'international, aux US, notamment, mais pas que. Comment tout ça se construit? Vous avez l'outil, mais il y a quand même des concurrents sur le marché à l'international. Comment on fait sa place? C'est quand même une question de beaucoup de startups. C'est comment je vais conquérir le monde.
En particulier, l'originalité du Japon, ça m'intéresse. On aime bien le Japon parce qu'on a vendu Price Meter à Rakuten, donc on connaît bien le Japon. Ah, je me demandais comment est-ce que vous êtes rentré sur le marché japonais, qui est toujours semble un peu loin quand on est français.
Sauf si on est bon au karaoké.
Oui, on raconte la réalité, Adrien, ou...
Allez, on a dit zéro bullshit. Hein.
La réalité, c'est qu'il faut identifier les leviers, en fait. C'est ça.
Ouais, j'ai l'impression que vous ne dites pas tout.
Ça m'a l'air bien maîtrisé comme discours.
Mais oui. Non, mais très rapidement, en 2013, on a décidé d'internationaliser très fortement la société. On se rendait compte qu'il y avait une bonne base technologique. On s'est impliqué très fortement dans une association internationale, oui, qui regroupe les 4-500 plus gros acteurs du monde de l'email. On s'est débrouillé pour être au board de cette association, d'ailleurs, aux côtés de Google, Apple, les plus gros mondiaux. Donc, c'était assez...
Elle s'appelle comment ?
Assez amusant. Ça s'appelle le MOG, Message Anti-Abuse Working Group. Donc, est un groupe de travail plutôt qu'une association, mais bon, voilà. Et donc, très, très, très international. Et là, comme on aime bien faire la fête, on a fait la fête aussi tard le soir avec pas mal de monde de cette association, dont des Japonais qu'on a appris à connaître, j'allais dire comme ça, on peut dire ça, Adrien, quand même.
Oui.
Voilà, qui sont devenus d'abord des copains avant de devenir des clients.
Je veux quand même le sourire en coin d'Adrien. Vous nous dites pas tout.
C'était à Paris, à New York, à Tokyo.
On a des bonnes soirées en mémoire.
On a des bonnes soirées, oui. C'est trois fois par an, une fois à San Francisco, une autre fois dans une autre ville qui tourne aux États-Unis et une troisième fois en Europe. Et nous avons, Veid, en tous les cas, lancé le JPOG, Japan OG, donc, qui est l'équivalent du MOG, mais purement japonais, parce que les Japonais parlent assez mal l'anglais, finalement. Donc, on fait une sorte de résumé du MOG spécifique au Japon. D'accord. Mais donc, on a été à l'initiative de ça, à titre personnel. Mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Voilà, on a fait quand même des soirées où c'était des concours de celui qui buvait le plus d'alcool fort. Avec les Japonais.
On a connu ça avec les Japonais, donc on comprend.
On a gagné, d'ailleurs.
Oui, ils tiennent pas bien l'alcool, mais c'est toujours drôle.
Mais voilà, en fait, finalement, on a créé une visibilité forte dans cette association qui regroupe les plus grands acteurs. Et on s'est fait connaître pour la technologie, mais également sur des relations humaines. Et ça crée un climat de confiance. Et les Japonais considèrent que la confiance est le plus important, finalement. Pour travailler ensemble.
Sur les US, beaucoup de boîtes françaises se sont cassées les dents. C'est quoi votre retour d'expérience sur ce qui fait qu'on tient? J'avais un entrepreneur l'autre jour qui me disait sur certains sujets, les Américains disent si on l'a pas fait aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt de base.
C'est assez difficile. C'est un marché qui est très difficile parce que toute la compétition se trouve là. Donc c'est très compétitif. C'est un marché qui est très grand. On peut y entrer par plein de moyens différents. On en a essayé plusieurs. Finalement, on peut dire que ce qui a bien marché, c'est de travailler avec des très grosses sociétés. Et on est entré par la qualité technologique. Déjà, on a fait un choix. Et je dis bien, c'est un choix. d'être les meilleurs technologiquement quelque part. C'est-à-dire que si on fait, mettons, 10 fonctionnalités, il y en a 3 dans lesquelles on est bon et 7 sur lesquelles on est moyen, on a arrêté de faire les 7 et on s'est concentré sur les 3.
Donc très sélectif. Et ça, c'est très sélectif. Ça, c'est pour gagner des contrats. C'était votre analyse pour gagner des contrats. Parce que est-ce qu'il y a un déclencheur, notamment sur le marché américain, un contrat en particulier dont tu es hyper fier et qui est peut-être l'ouverture des autres après.
Clairement, le plus structurant, ça a été Cisco. Enfin, je pense que tu dirais la même chose, Adrien. Puis on a le droit d'en parler, Cisco, ça tombe bien. Il y en a d'autres, on n'a pas le droit. Donc Cisco, bah, c'est simple. En 2013, donc quand on a racheté la boîte avec Adrien, tout de suite, Adrien était célibataire et il y en avait 2-3 célibataires dans la boîte. On a dit, allez hop, on crée une filiale à San Francisco.
C'est et plus on facile les que laisser femmes et enfants.
On envoie les célibataires là-bas. Ce qui a été, d'ailleurs, je pense qu'on peut le dire, très fun aussi. on ne peut pas tout raconter.
Ça a été fait en mode start-up. On a loué une maison et on était tous dans la maison au début. Ouais.
Mais vous étiez combien à San Francisco?
Au départ, ils étaient 3. Puis, il y a eu quelques recrutements et d'autres personnes. Voilà, à San Francisco, il n'y a jamais eu énormément de monde, finalement. Parce que maintenant, on est plus à Boston, dans la région de Boston. Mais voilà, il y a eu au maximum 6 ou 7 personnes, peut-être, à San Francisco. Ouais.
Et là, l'objectif clair, c'était d'aller chercher des clients ou d'aller chercher des financements ou d'aller chercher. Est-ce qu'il y avait une roadmap?
S'immerger là où ça se passait sur le monde de la cybersécu et le monde de l'email, les deux. On s'est dit, c'est là que ça se passe. Donc, c'est là qu'il faut aller. On veut être les meilleurs. Donc, si on veut être les meilleurs,
il faut se confronter aux meilleurs.
C'est là que ça se passe. Et ce qui est très surprenant, c'est
facile
que...
de s'immerger, pardon. Je vais te laisser sur ce qui est surprenant, mais c'est facile de rentrer dans ces écosystèmes.
Oui, quand même, parce qu'il y a des... Il y a des espaces de coworking, il y a des meet-ups qui sont organisés, qui permettent de networker un peu. Les Américains, quand on leur parle, bon, déjà à San Francisco, tout le monde connaît la cybersécu, tout le monde connaît l'email.
Il y a un niveau de maturité qui est élevé.
Adrien pourrait en parler, mais on croise des gens dans un bar et c'est quelqu'un qui est chef produit chez Google. Donc, voilà, et qui va dire, bah tiens, si tu fais ça, bah, je peux t'aiguiller vers telle ou telle personne. Les gens s'échangent les informations. Là. Les Américains le font, ça c'est très, très
c'est
positif.
Adrien, je te vois réagir.
Non, mais c'est ça, il y a tout l'écosystème, toute la structure qui a été faite, comme l'évoquait Georges, il y a énormément d'événements. Tous les soirs, on peut aller quelque part dans la Silicon Valley et aller écouter des présentations ou interagir avec des personnes. Et au-delà de ça, comme le dit Georges, dans la vie personnelle, je me suis retrouvé par hasard à aller... sortir le soir et rencontrer des gens de la Silicon Valley et créer des liens qui sont d'ailleurs toujours des copains. Ouais.
Oui, Adrien a été pendant 7 ans le CEO de VeilSecure Inc. Là-bas, 7 ans ou 6 ans, je ne me souviens plus.
6 ans, oui.
Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on parlait déjà, on était déjà entré à cette association, le MOG, donc qui est d'origine américaine, dans lequel se trouve Cisco notamment. Et on avait déjà parlé de notre techno à Cisco. Et finalement, dès lors qu'on a dit « on est aux États-Unis, on est à San Francisco », ils nous ont dit « ah, on va pouvoir démarrer avec vous ». Et ils ont testé le produit et ils ont signé. Voilà.
Ça, c'est intéressant d'insister sur ce point-là pour partager notre expérience. On leur parlait depuis des années 3 fois par an. On voyait les mêmes personnes 3 fois
par an.
Mais depuis
la France.
depuis là où le fameux événement MOG se passait. Mais la semaine où on a annoncé qu'on s'installait, c'est-à-dire qu'on ouvrait une filiale aux États-Unis, ça a totalement changé. Dans leur perspective, travailler avec nous était devenu simple. Et donc, ça a tout accéléré.
Voilà. Et la première réunion qu'on a eue avec eux, c'était dans un salon de thé.
Plus sage. Plus sage, et ce qui permet aussi
de... Il n'y avait pas de saké ni de vodka.
Non, mais oui, c'est sage d'une part. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est des gens qui se rencontrent et qui ont dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et dans un salon de thé, ils ont pris la décision de démarrer un test avec nous, ce qui ne se serait pas fait si on n'était pas, si on n'avait pas.
Et là, en plus des liens que vous avez pu créer et donc qui validaient le fait que c'était intéressant d'être présent physiquement sur le continent américain. Est-ce que vous avez eu des arguments, j'imagine, assez technologiques aussi? Sur des savoir-faire différenciants de ce qu'ils avaient déjà à disposition.
Complètement, oui. Le message était extrêmement technologique. Voilà, on avait donc un système de classification, détection d'emails, enfin sans entrer dans le détail, basé sur une analyse contextuelle, comportementale, utilisant l'intelligence artificielle. Cisco, qui est un concurrent, n'avait pas cette technologie et donc a intégré une partie de notre système de détection dans ses produits. Quand je dis une partie, c'est simplement parce que comme on est concurrent, on ne leur donne pas tout.
Ouais. On vend quoi, une licence du coup
Oui, et aujourd'hui encore, c'est notre plus gros client, Cisco, et c'est un partenaire très proche.
Deux sujets donc compliqués, à la fois cette levée de fonds qui a chopé en cours de route et ce sujet du gros litige avec votre concurrent. On a une question à ce sujet-là de notre partenaire Madinès avec Anne Taffin qui vous interroge. On l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour. Vade Secure a été condamné en août dernier à verser 13,5 millions de dollars à son concurrent américain Proofpoint dans le cadre d'un litige concernant le détournement d'une douzaine de secrets des affaires. Comment gère-t-on ses clients et ses actionnaires face à un tel verdict ?
Oui. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler le contexte ? Je me permets, donc je crois que c'est dans le contexte où vous aviez recruté quelqu'un.
Oui.
Et dont votre concurrent a pu dire qu'il était dans une société que eux voulaient ou avaient acquis, c'est ça ?
Donc oui, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que nous avions recruté notre directeur technique, un Français basé aux États-Unis, qui venait d'une société qui ensuite a été rachetée par Proofpoint. Et nos produits étant concurrents, ressemblants, le fait qu'on gagne des affaires aux États-Unis, qu'on est plus petit, pouvait laisser supposer qu'on a triché. Et qu'on s'est inspiré donc des produits de ce concurrent en ayant recruté.
Ça, c'est l'objet du litige.
C'est la base, le démarrage du litige.
Et il y a une suite.
Et ensuite, le cabinet d'avocats de la partie adverse a utilisé le DTSA, Defend Trade Secret Act. Qui est une loi récente pour lutter contre l'espionnage, et notamment ça a été créé par Barack Obama pour lutter contre l'espionnage par Huawei. Bon, là, c'est utilisé pour des entreprises beaucoup plus petites, mais en règle générale, on est obligé de transmettre l'intégralité du code source, on est obligé de transmettre l'intégralité des communications avec les salariés. Ça représente des millions de pages, enfin d'équivalent page A4, en français, traduite, etc. Donc, c'est extrêmement lourd, extrêmement coûteux.
Et alors, du coup, chacune des deux parties fait appel à des experts ou quand vous transmettez tous ces papiers A4 ou l'équivalent de ce que vous êtes obligé de finalement de transmettre, vous les transmettez à qui ?
Eh bien, donc, on les transmet à nos avocats qui les transmettent à des experts qui sont choisis par nous et transmis au cabinet d'avocats de la partie adverse qui le transmet aux experts choisis par eux. Et donc, tous ces documents sont analysés, ce qui coûte effectivement extrêmement cher.
Et sur des données ultra sensibles, du coup ?
Oui, ce sont des données très confidentielles, évidemment. L'intégralité de notre code source a été transmise. Et de manière générale, je veux dire, c'est comme ça dans le fonctionnement du DTSA.
Ce sont des
experts assermentés qui n'ont pas le droit, évidemment, de remonter ces informations à notre concurrent, heureusement.
Je reviens à la question initiale du coup de Anne Taffin de Madinès. Comment on gère les actionnaires ? Comment on gère les clients ?
Ça a été assez compliqué, très angoissant. Il y a eu des crises de confiance en interne. Enfin, on a toujours gardé confiance en la justice américaine et le fait que on soit en tous les cas considéré de façon juste, équitable. Bon, finalement, on a été jugé coupable et on se réserve la possibilité de faire appel, mais à des niveaux bien moindres que ceux qui étaient demandés, en tous les cas, par notre concurrent.
Je me permets, parce que je crois savoir tout à l'heure, dans l'introduction d'Olivier, on évoquait certains montants, 500 000 euros de frais d'avocat mensuels. Est-ce que c'est pas mieux, même quand on a perdu, même si c'est une grosse somme, de dire bon, au moins, ça c'est fixe et j'arrête de remettre de l'incertitude dans mon business ?
Ben, ça a dépassé assez nettement ces 500 000 euros par mois.
Ouais.
Il faut savoir qu'aux États-Unis, en règle générale, les cabinets d'avocats mettent des moyens en proportion du risque total. Ils considèrent qu'ils sont capables de mettre des moyens à 50% du risque total. Voilà, le risque total était 4-5 fois plus grand que ce qu'on s'est pris comme dommage. Et donc, ils ont mis des moyens très élevés.
Et alors du coup, je reviens, et désolé Anne, hein, on a du mal parce qu'on a envie de rebondir sur ces sujets qu'évoque Georges, mais alors du coup, donc, vis-à-vis des invests, vis-à-vis des clients.
Bah, vis-à-vis des investisseurs, ça a été assez compliqué parce que les investisseurs ont peur du risque, et le risque était très élevé. Les clients...
Ça peut mettre une boîte au tapis, une affaire comme ça.
Oui, ça aurait pu mettre Veid au tapis, oui. Et ça peut mettre une boîte au tapis dans d'autres circonstances, effectivement. Il faut être extrêmement résilient. On a la chance d'avoir une certaine taille, d'être en croissance et surtout d'avoir conservé la confiance de nos clients sur nos 8000 clients. On en a maintenant 14 000 à ma connaissance, aucun client, nous n'avons perdu aucun client pour cette raison-là.
C'est peut-être la meilleure réponse.
C'est probablement la meilleure réponse, mais les clients savent qu'on est très innovant et comprennent que vraisemblablement, nous n'avons pas cherché à nous inspirer du concurrent.
Mais est-ce que dans ce cas-là, ils accusent la personne que vous êtes en train de recruter et se fait attaquer lui aussi à titre personnel ?
Oui, elle s'est fait attaquer à titre perso également.
Et dans ce cas-là, on l'accuse de transmettre des informations, juste son savoir-faire ou aussi des datas de manière illégale ? Ou c'est parce que c'est juste qu'il y a dans son cerveau qui finalement, d'une certaine manière, fait partie de la propriété intellectuelle ?
Finalement, l'attaque est contre l'entreprise et contre le salarié. Ce qui est redoutable, parce que ça déstabilise forcément les équipes en interne. Mais bien entendu, et là, notre directeur technique a été condamné pour ne pas avoir respecté son contrat vis-à-vis de son employeur précédent. En tous les cas, parce qu'il est supposé avoir transmis des informations.
On parle des montants, on parle du risque potentiel quand même pour la boîte, même si vous aviez l'air insolide, même si vous avez continué à engranger des clients. Puis après, il y a comment on gère tout ça en perso, dans la tête. Enfin, une petite secousse, c'est quand même une grosse secousse.
C'est une très grosse secousse. Et effectivement, le principe du DTSA, c'est vraiment de mettre en cause des personnes physiques dans l'entreprise et l'entreprise elle-même, donc le chef d'entreprise lui-même, qui est accusé ou soupçonné d'avoir volontairement cherché à prendre à s'inspirer du savoir-faire. Et donc, c'est très compliqué à titre personnel parce que, ben, de notre côté, Veid, on a toujours essayé d'avancer dans la légalité, dans le respect de la concurrence, etc. Et donc, se faire accuser, soupçonner et accuser de s'être inspiré volontairement, c'est quelque chose qui est assez difficile à titre personnel, oui, ça c'est sûr.
Ce qui est difficile aussi sur l'inspiration, parce que c'est pas pareil que le vol, et puis c'est... On peut avoir que des faisceaux de preuves, des faisceaux d'indices. C'est difficile à...
C'est très difficile. Et c'est toute la problématique du DTSA, Defense Trade Secret Act. Le savoir-faire d'une personne vient finalement de ce qu'il a appris dans son entreprise précédente. Et ce qu'il a appris dans son entreprise précédente, si ça n'est pas dans le domaine public, c'est considéré comme un trade secret. Où ça peut l'être. Et
oui,
la nuance est extrêmement difficile à voir. Et on peut ajouter d'ailleurs que le DTSA est utilisé soit quand quelqu'un a recruté quelqu'un chez un concurrent, un ingénieur ou quelqu'un d'autre, soit quand il y a eu des relations commerciales à un moment donné qui ont donné lieu à un NDA et donc un engagement de confidentialité.
C'est quoi ? C'est un outil de plus pour... les boîtes américaines dans la concurrence économique ?
Bah, c'est un outil que les boîtes américaines utilisent contre des Américains également.
Ouais, okay.
Je veux dire, la réglementation américaine est plus sophistiquée que la réglementation européenne.
D'où le montant aussi des honoraires d'avocat.
Voilà. Et la notion d'IP, de propriété intellectuelle, est aux États-Unis culturellement extrêmement forte, beaucoup plus qu'en France. Par exemple, en France, on ne peut pas déposer des brevets logiciels. Aux États-Unis, on peut. Et cette loi Defense Trade Secret Act existe aux États-Unis, n'existe pas en France.
Du coup, parce que bon, il y a ton aventure, mais il y a les leçons qu'on peut en tirer pour la French Tech, notamment.
Oui.
Tu partages quoi? Parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais déjà, pas forcément dans tous les pays, pas forcément même de tout ce qui existe aux États-Unis. Donc, comment on se prépare ou comment, je sais pas.
Oui, c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine, finalement, quand on commence à exporter, à s'attaquer aux États-Unis, au Japon ou ailleurs, comme on l'a fait. Au début, on y va un peu la fleur au fusil, en se disant, bah, tiens, il y a une opportunité, allons-y. En réalité, il faut chercher à cloisonner extrêmement fort, s'armer avec des assurances, des conseils, les contrats. Et toutes les étapes sont importantes.
Non, mais c'est déjà un budget de partir à l'international. C'est un budget notamment de partir aux États-Unis. C'est-à-dire que là, la barrière à l'entrée, de fait, si on veut y aller de manière zen et plus sécure, sans jeu de mots, la barrière est plus haute.
La barrière est plus haute. Mais bon, il faut y aller en étant armé financièrement. Je pense que les Français, on y va, j'allais dire, avec un petit peu de capitaux. On s'imagine que ça va être un peu comme une extension de la France ou d'un pays européen. Ça coûte pas forcément plus cher initialement, mais souvent plus quand même. Et les risques sont nettement supérieurs parce que les lois sont différentes. La culture est très différente. Les frais d'avocat sont très, très nettement supérieurs. Donc, finalement, il y a quelques règles à bien respecter. Bah déjà, éviter d'embaucher quelqu'un chez un concurrent. Ou si on le fait, il faut le faire de façon extrêmement bien bordée. De même que lorsqu'on signe un accord, un NDA avec un Américain, il faut parfaitement le cloisonner dans son périmètre et créer une clean room pour que toutes les informations qu'on a reçues concernant ce non-diffusion agreement ne soit pas divulgation agreement ne sortent pas des personnes directement intéressées.
Tu dis ça peut s'entendre vu l'expérience que t'en as eue ne pas aller chercher des talents chez les concurrents, mais sur certains sujets vu les niveaux de talents qu'il faut aller chercher et sur des expertises ultra spécifiques, si on veut grandir, je vois pas comment on fait autrement.
On peut toujours grandir. En fait, la situation idéale, c'est d'embaucher des gens qui ont un savoir-faire proche, mais pas directement concurrent. Dans la cybersécurité, c'est un sujet assez vaste. On peut embaucher des gens extrêmement pointus en cybersécurité, qui sont par exemple dans le domaine de l'antivirus, et l'embaucher alors qu'on fait de la sécurité de l'email. Voilà. Bon, mais si on veut embaucher quelqu'un qui a un savoir-faire très pointu, il faut être extrêmement rigoureux et cloisonner l'utilisation de son savoir-faire, que lui-même signe un engagement à ne rien utiliser, ne rien avoir gardé sur son disque dur, etc. Et cloisonner, ça signifie lui interdire de transmettre des informations à d'autres qui travaillent sur des sujets qui, eux, sont par contre concurrents. Et cette notion de cloisonnement, ce que les Américains appellent la clean room, on ne connaît pas du tout ça en France. On est extrêmement naïf sur ces sujets-là.
Tu peux développer ?
Eh bien, voilà, un ingénieur qui travaille sur un sujet qui vient d'un concurrent, on va le mettre sur un sujet non concurrent, par exemple, on peut le faire. Et dans ce cas-là, il ne doit pas avoir les droits d'accès sur le code source, par exemple, qui va être développé de fonctionnalités concurrentes à la société d'où il vient.
Donc en fait, sur le contrat, il faut
cloisonner,
tout border, tout lister. Là où on dit « ça semble évident en France, c'est interdit, ça ne se fait pas », là, il faut tout écrire.
Voilà, il faut tout écrire. Et les contrats, du coup, enfin nos contrats maintenant, depuis qu'on a subi ce litige, nos contrats sont béton. Et je ne sais plus combien il y a de pages, mais il y a une quinzaine de pages. On a appris les premiers contrats, c'était en deux pages. Après, il y en avait trois, quatre parce qu'on se rendait compte qu'il fallait en faire plus. Et maintenant, on fait signer des engagements qui sont extrêmement forts. Parce que
le temps
si
de les lire,
le
les
fait
techniques
pas,
ont changé.
Oui, c'est ça. Si on ne le fait pas, si on ne demande pas aux salariés de respecter la loi aux États-Unis, ça signifie qu'on est complice si jamais il le fait. Or, on est pas loin de 200 chez nous. Comment être certain qu'il n'y en a pas un qui a gardé une information qui vient de son employeur précédent, c'est extrêmement compliqué. Donc lui faire signer l'engagement formel, il doit le lire et le signer qu'il a détruit toute pièce, est très important, en tous les cas, dans la culture et la façon dont doit interpréter la loi aux États-Unis. Un juge américain nous avait dit « N'utilisez jamais un crayon qui vient de votre employeur précédent. »
Par principe.
Par principe. Rien. Zéro.
Alors peut-être ouais. Au-delà de passer plus de temps sur l'affaire, parce que là, on a compris non, où elle en était. Parce que je trouve que du coup, ce qui est hyper intéressant derrière, c'est qu'il y a une des conséquences directes, ou pas, d'ailleurs, c'est ce que je voulais comprendre. Et alors du coup, est-ce qu'on peut passer à la suite, parce que je brûle de poser ma question. Ah. Wow. Parce que du coup, vous étiez aussi en processus de levée de fonds. Oui. Pendant toute cette histoire. Alors, je ne sais pas si l'histoire juridique avait déjà commencé avant qu'il y ait eu des LOI signés par des fonds, ou c'était en plein pendant.
En plein.
Et il se trouve qu'en plus, on a traversé la crise du Covid, donc ça s'est additionné. Et donc, il y avait 70 millions d'euros potentiellement sur la table, hein, qui avaient même été annoncés dans la presse. On
tout
avait
à
parlé
fait.
De levée de fonds
ouais,
dans la presse, en anglais, en français. On a retrouvé tout ça et tout le monde se réjouissait pour vous. C'était peut-être une des plus grosses levées de fonds de la cyber en plus. Enfin, quelque chose d'assez impressionnant. Et tout était signé. Et puis patatras. Alors, ça a été finalement après quelques mois, hein, parce que je crois que vous avez essayé d'étendre les délais, que chacun négocie un peu les délais pour prendre, tirer la situation au clair avant de potentiellement décaisser ou closer cette levée de fonds. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre l'affaire judiciaire, le Covid, les tractations avec ce fonds d'investissement ?
C'est complexe et il y a plusieurs paramètres. En fait, on avait donc signé et il y avait un délai entre le signing et le closing. Pourquoi ? Parce que nous sommes activité sensible et donc il faut l'agrément du Bureau des investissements étrangers en France pour faire un investissement américain, en l'occurrence, dans une entreprise sensible française. Et finalement, le gouvernement a accepté, mais avec des contraintes qui ont surpris Général Catalyst, qui nous paraissait de notre côté acceptable, mais bon, voilà, c'était quand même des contraintes.
Est-ce que vous avez le droit de parler des contraintes ? C'est des contraintes pour qu'ils aient pas d'accès à certaines datas, par exemple ?
C'est de maintenir la R&D en France, de maintenir les contrats avec des OIV, des organisations sensibles en France, enfin organisations d'importance vitale, les hôpitaux, les casernes de pompiers, enfin bon, voilà.
Tout ce qui est sécurité, santé, d'accord.
C'est ça. Et de maintenir une certaine, enfin, un certain savoir-faire et certains engagements vis-à-vis de ces OIV. Mais ces engagements sont parfois un peu compliqués, notamment le Cloud Act aux États-Unis qui permet de récupérer toutes les informations gênées, évidemment, les OIV. Donc là, on est typiquement dans cette difficulté de l'extraterritorialité des lois américaines dont se méfie quand même le gouvernement français. Et je comprends ça. Donc, il fallait maintenir une certaine étanchéité. Voilà, ça, je comprends aussi que ça gêne General Catalyst parce que le but d'un investisseur, c'est de revendre éventuellement un Américain. Et si le gouvernement français doit donner son avis avant une vente, ça peut freiner la vente. Bon. Donc, en tout cas, ça, il y a un délai de un mois, deux mois pour obtenir le...
L'agrément, l'agrément. De Bercy, en fait.
À ce moment-là, donc, on a communiqué sur le sujet... Bon, il y a débat, fallait-il communiquer ou pas ? Bon, je pense qu'il valait mieux pas.
Mais après coup, oui, on sait.
Après coup, oui, mais en tout cas, on n'était pas forcément pour communiquer. Du coup, ça a mis notre concurrent en situation d'urgence parce qu'il voyait qu'on était en train de progresser très fortement. Il s'est dit, s'il y a un Américain en plus qui investit, là, c'est...
On va se bagarrer à armes égales côté avocat, voilà. Oui.
Et donc, la litigation a eu lieu immédiatement après cette annonce en presse, de presse, qui, bien sûr...
Donc, l'annonce de la presse, c'était 70 millions d'euros
d'investissement. Voilà, c'était en juillet 2019, ou fin juin, et la litigation, c'est quelques jours après, de Proofpoint. Donc, forcément, il y a eu des discussions sur les montants des garanties, etc., avec des effets de théâtre. Bon, puisque c'est ça, on s'en va. On revient. Enfin, bon, voilà. Ça a pris quelques mois et le Covid est arrivé.
Non, mais...
entre-temps, Général Catanis nous a dit, il y a le Covid, donc on ne peut pas venir, donc on va voir, on va attendre encore un peu. Et nous, on a dit, non, on n'attend pas. On a assez attendu, ou vous investissez, ou vous n'investissez pas. Si vous investissez, les choses vont se passer comme ça. Si vous n'investissez pas, on gère des choses différemment, dont des contrats en cours à signer, mais qui n'étaient pas forcément de l'avis de Général Catalyst. Donc, peu importe.
Donc là, c'est début 2020.
Mais c'est début 2020, et on avait deux voies possibles avec eux ou sans eux. Comme ils nous demandaient d'attendre, on a dit on n'attend pas. Et donc, d'un commun accord, on a rompu.
Et est-ce que dans ta compréhension, la demande de délai supplémentaire, c'était effectivement le Covid? Ou est-ce qu'ils commençaient à être réellement inquiets aussi de la question du procès, des procédures juridiques?
Bien sûr, le procès joue, mais le déclencheur a été le Covid. Mais pourquoi le procès joue? C'est parce que, bien entendu, ça joue sur la valorisation d'entreprise, les garanties qui devenaient gigantesques. Et je comprends bien pourquoi. On ne s'attendait pas à une telle violence, finalement.
Sauf qu'en tant qu'investisseur américain, parce que je rappelle, c'est un fonds General Catalyst qui est de Boston, ils connaissent bien du coup ce terrain, j'imagine, et ils peuvent s'attendre, ils peuvent voir ça aussi comme finalement une sorte de bonne nouvelle, comme quoi finalement vous êtes une vraie menace pour le concurrent américain.
Ah oui, c'est vrai. Pour ça, eux disaient, ça n'est pas un frein pour nous. Sauf que les garanties étaient énormes et que personne ne connaissait... il n'y a pas de jurisprudence ou très peu sur le DTSA, donc le Defense Trade Secret Act.
Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Ouais.
1% seulement vont jusqu'au jugement. La plupart vont en settlement, donc arrangement à l'amiable, qui sont toujours confidentiels. Donc personne ne sait comment ça s'est arrangé. Finalement, d'ailleurs, tous les cas qu'on a pu voir se sont terminés par le rachat de la start-up par la boîte qui attaquait. Donc,
c'est une façon de faire un settlement.
Voilà. Et il y a eu donc très très peu de passages en justice. Donc prévoir et les coûts et les conséquences, personne n'était capable de le faire, même les Américains finalement.
Donc tu as cette épée de Damoclès du procès sans savoir quelle est la limite. Tu as ces fonds qui du coup n'arrivent pas. Enfin, dans vos têtes.
Mais d'un commun accord, eux qui ont décidé, c'est nous qui avons décidé on préférait arrêter plutôt que d'attendre.
C'est très clair, mais du coup, c'est un
séquencement.
Ouais, un séquencement où il faut soit avoir les reins très solides, mais malgré ce qu'on peut dire, ça doit quand même sacrément trotter dans la tête, quoi.
Ça se coupe. Mais à un moment donné, on s'est dit, la boîte est à risque. On est en train de devenir, à la merci de sociétés américaines sur différents angles. Général Catalyst prenait la majorité, ce qui nous allait bien au départ, en tous les cas. Mais voyant les dangers, les risques, voyant qu'on était activité sensible, voyant tout ça... Et puis, je vous passe aussi la maturation qu'on a pu avoir par rapport aux problèmes de souveraineté, de l'importance que ça peut avoir. Enfin, je ne rentre pas trop dans les détails, mais on s'est dit, il faut qu'on se replie sur nous-mêmes, qu'on sécurise la société, qu'on la renforce d'un point de vue... efficacité financière, etc. Enfin, avant de faire, enfin, renforce financier en intrinsèque, sans faire de levée de fonds. Et on fera une levée de fonds quand les choses seront clarifiées. Donc, on a pris notre courage à deux mains. La boîte était super résiliente, 100% de récurrents, très peu de churn. On se disait, si on attaque un peu moins, on peut, en tous les cas, avoir une boîte qui devient très rentable.
Le chiffre d'affaires à l'époque
On communiquait en général pas sur le chiffre, mais il était un peu moins de 20 millions à l'époque et on a fait...
C'était les ordres de grandeur qu'on lit dans la presse, effectivement. Ouais. Après,
et aujourd'hui
Aujourd'hui, on a fait... depuis, on a fait à peu près 70% de croissance...
Par an.
Non, pas par an.
Non,
On a fait un peu plus de 30% en moyenne ces dernières années. Voilà.
Alors
accélération de croissance ou diminution.
Si on passe un peu sur d'une certaine manière le monde d'après ou le monde de maintenant pour Veid.
I have a dream.
Ça C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du monde d'après, on pense à la fois, on a traversé une crise sanitaire qui peut être en train de se finir, on ne sait pas encore, mais maintenant il y a une crise ukrainienne, donc il y a toujours un monde d'après de plus ou d'après en fait, un d'après-après. Moi, ça m'intéresserait de savoir du coup quelles ont été les conséquences de toutes ces crises sur le marché de la cybersécurité, du coup sur la vie de l'entreprise et puis après sur votre croissance. C'est-à-dire que d'après ce que je comprends, le Covid, c'est aussi des opportunités dans la cyber d'une certaine manière, oui, pour les attaquants d'aller chercher des failles et du coup pour vous aussi d'aller vendre votre produit. Et puis après, l'Ukraine qui arrive et qui se greffe et dont on parle beaucoup.
Sur la guerre, je comprends bien les enjeux, les attaques. Sur le Covid ou...
Moi, j'ai su qu'il y avait des attaques, notamment sur le système de santé, par exemple, et sur des hôpitaux. Alors, je ne sais pas si c'est ça la principale menace et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme...
Disons que il y a beaucoup d'attaques qui sont contextuelles, mais peut-être le plus important aura été le fait que la surface de vulnérabilité a été élargie par le télétravail.
Oui.
Et donc, on a changé les habitudes d'entreprise qui n'avaient pas forcément l'habitude de se sécuriser dans ce contexte-là.
C'est-à-dire que les salariés en remote, en home office, enfin en télétravail, deviennent chacun des maillons faibles d'une certaine manière.
Et comme l'humain est le maillon le plus faible, là, c'est encore plus facile, dès lors qu'il est tout seul dans son salon, à travailler sur des postes de travail qui ne sont peut-être pas suffisamment sécurisés, si ce ne sont pas les mêmes que ceux qui l'utilisaient au travail, etc. Enfin, beaucoup se servent de leur smartphone pour lire leurs emails maintenant en particulier. Enfin bon, voilà. Et les attaques par rebond peuvent se faire sur un smartphone, puis sur le PC, puis dans le réseau, etc. Donc on a augmenté considérablement la surface de vulnérabilité. Et y a eu également différentes problématiques. En fait, les cyberattaquants aiment bien les situations d'urgence, parce que c'est dans l'urgence que l'humain est le plus faible.
Oui. Parce que du coup, psychologiquement, on prend les mauvaises décisions, on est moins vigilant.
Il faut aller vite.
Il faut aller vite, tout le monde parle. Les pénuries de masques, machin. Donc, on a vu des fausses pubs, mais voilà, des attaques qui passent par ces sujets-là. On a vu, malheureusement, et c'est lamentable, mais bon, c'est comme ça, des hôpitaux, des cliniques attaquées par des ransomware, parce que c'est le moment de demander une rançon supérieure, puisque, ils sont préoccupés par un tas d'autres choses et ils sont fragilisés. C'est comme ça. Donc, effectivement, les cybermenaces ont été, enfin les cyberattaques ont été multipliées. Certains disent par 7, d'autres par 5. Enfin, les attaques gouvernementales notamment, puisqu'il y a eu des problèmes de souveraineté à ce moment-là.
Je crois qu'il y a aussi des collectivités locales ou autres qui ont pu être attaquées, ou des régions, des métropoles ou autres. Enfin, oui.
Donc ça a augmenté considérablement la surface de vulnérabilité et les opportunités d'attaque de tout niveau.
Tout à l'heure, Olivier disait que vous analysiez plus d'un milliard de mails notamment. Là, la guerre en Ukraine déclarée le 24 février, vous voyez un rebond dans les semaines qui suivent, dans le jour même.
On sécurise un milliard 100, un milliard 2 de boîtes mails dans le monde. Donc on a 70 milliards d'informations par jour qui nous seront montées de manière anonymisée. Mais Adrien, tu peux peut-être en toucher un mot puisque c'est plus de ta partie.
Oui, de manière très concrète, en effet, quelques jours après le début de l'invasion, donc sur le week-end, on a vu le volume de malware, de virus envoyé aux entreprises être multiplié par 100 par rapport au volume moyen des semaines précédentes. Ça a duré quelques jours et ensuite le graphe retombe, et il y a quelques pics, mais c'est plus calme. C'est resté plus calme pendant à peu près un peu plus d'une semaine, quasiment deux. Et après, on a un nouveau rebond, encore plus élevé que le premier, qui a encore duré quelques jours, et ainsi de suite.
Est-ce que ces attaques, c'est des pirates comme les pirates d'avant qui profitent du contexte d'urgence, ou est-ce que c'est aussi des attaques directement, militaires ou orchestrées par les forces en présence? Ça serait plus des corsaires ou des pirates, pour prendre le vocabulaire de...
C'est très difficile à dire. Quand on regarde les attaques, concrètement, la thématique, il n'y a pas de grand changement par rapport à ce qui était envoyé quelques semaines auparavant. C'est juste que le volume, l'agressivité est beaucoup plus massif. Mais on n'arrive pas à dire que c'est dans un but militaire ou c'est dans un but d'opportunité côté attaquant.
Oui.
Oui, il n'y a pas une réorientation des cibles.
Et ça vient des mêmes systèmes, des mêmes botnets. Par contre, ce que l'on peut présager, c'est que effectivement il y a eu cette augmentation d'attaques, et je pense par les bots, ça permet de prendre possession de PC, ouais. De réseaux un peu partout, qui peuvent être activés plus tard. De toute façon, c'est la difficulté d'une cyberattaque, c'est qu'elle est complexe et en plusieurs étapes. Elle utilise presque toujours l'humain à un moment donné, mais finalement, ça se prépare. On pose des jalons à droite, à gauche, pour ensuite activer quand on veut. Et ça peut être beaucoup plus tard, d'ailleurs. Donc, ça nous inquiète. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que dans la forme, il y a eu quelque chose de très différent. Il y a eu quelque chose de très différent dans les volumes. Et c'est ça qui fait que ça nous inquiète.
Mais est-ce que, même en dehors du contexte de la guerre ukrainienne, d'une certaine manière, est-ce qu'il y a selon vous, ou est-ce qu'on s'est mesuré, il y en a certainement, mais est-ce qu'on s'est mesuré la part des attaques qui peuvent être gouvernementales ou qui peuvent être aussi de l'ordre de la guerre économique, pas uniquement des privés qui cherchent à s'enrichir, mais aussi de la guerre économique orchestrée, peut-être par certains, je ne veux pas donner de pays, parce que je n'ai pas envie de me faire pirater ou kidnapper, mais enfin, il peut y avoir des pays qui sont en gros nos ennemis au sens économique et qui nous attaquent aussi, nous, les entreprises, disons, européennes, françaises, etc., tout au long de l'année, indépendamment de...
Mais on est aussi espionné par des pays amis. Hein.
Oui. Bon, on va tous devenir parano.
Non, mais c'est un vrai sport. Tous les pays industrialisés, enfin, à un certain niveau, essaient d'obtenir des informations des pays voisins. Évidemment, il y a des pays plus ou moins voyous. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'exception. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais...
Donc la guerre économique est totale.
Dans cette rubrique, on se projette sur le futur. Est-ce que vous voyez à quoi ressembleront les attaques demain? Vous qui commencez à avoir peut-être des premiers signaux faibles dans ce que vous analysez, est-ce que finalement ce sera globalement toujours les mêmes sujets, de la même manière, ou il y a des nouveautés qu'on voit apparaître?
Moi, personnellement, je pense que la tendance la plus remarquable, c'est peut-être ces fameuses attaques par rebond qui utilisent la supply chain, Adrien.
Ouais.
Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau parce qu'on n'attaque pas la cible. On attaque quelqu'un
le boulanger
qui est en relation. Voilà. on attaque quelqu'un qui est en relation avec quelqu'un qui est en relation avec quelqu'un qui est en relation avec la cible.
C'est marrant, ça fait penser au film.
Ça, c'est effrayant parce que finalement, on a l'impression que.
T'es obligé de te méfier de
tout. Il y a des ramifications partout, mais il y a toujours un petit maillon faible quelque part qui va permettre de passer le fil. Hop.
Ça fait penser au film hollywoodien de cambriolage, même si tu oublies la cyberdéfense, où il y a systématiquement des trucs, des montages pour aller voir la famille de quelqu'un qui a accès, qui prend l'uniforme ou les clés ou hop, du livreur qui va rentrer finalement dans le casino ou dans la banque.
Ouais.
Ça, quoi.
C'est tout à fait comparable. Ouais. De toute façon, le meilleur moyen pour comprendre la cybersécu, c'est d'y voir toutes les analogies en physique. C'est exactement pareil. Enfin, il n'y a pas de.
Oui, parce que finalement, c'est aussi d'aller chercher les points de faiblesse, quoi.
Messieurs, je vois le temps qui défile. Ce que je vous propose, c'est qu'on conclue cette première partie de l'épisode consacré à Vaid, et puis qu'on se retrouve, en tout cas pour nos auditeurs, dans quelques jours pour découvrir l'homme derrière l'entreprise, avec la découverte de qui est Georges Lotigier, avec Adrien, si tu le veux bien.
Oui.
Rester avec nous, parce que du coup, on a bien compris que ton sourire en coin en dit long, et du coup, tu pourras... tu pourras nous aider à interroger, à découvrir Georges. Merci à tous.
Merci beaucoup.
Si vous nous écoutez, que vous êtes toujours là,
c'est
que vous avez apprécié l'échange. Donc on ne peut que vous recommander, si c'est pas déjà fait, de le partager ou de nous mettre les fameuses 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci à tous.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.